Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ingénieur à venir. Aujourd'hui, je reçois Étienne Meyer, ingénieur conception chez un jeune fabricant de vélos français. On va parler de conception mécanique, de prototypage et plus largement de la mobilité à vélo. Bonne écoute! Bonjour Étienne et bienvenue dans le podcast Ingénieur à venir, ça va?
Très bien, merci Léo de me recevoir.
Alors Étienne, tu as 25 ans et tu as été diplômé du département génie mécanique à l'INSA de Lyon en 2022. Depuis 6 mois maintenant, tu as intégré l'entreprise B2 e-bike en tant qu'ingénieur conception mécanique. Alors pour commencer, est-ce que tu peux décrire ce que c'est l'entreprise B2 e-bike?
Alors l'entreprise B2 e-bike, elle existe depuis quelques années maintenant. C'est une entreprise, pour faire simple, qui conçoit et qui fabrique des vélos électriques et des systèmes de sécurisation et de recharge pour vélos électriques.
Ok. Alors pour se faire une image, il y a combien de personnes? C'est une grosse entreprise?
Alors non, c'est une petite entreprise. Actuellement, on est 9 employés et 10 la semaine prochaine. C'est une entreprise qui a commencé avec 3 associés il y a environ 8 ou 9 ans, si je ne me trompe pas. Et ils ont grossi petit à petit jusqu'à embaucher leur premier ingénieur l'année dernière. Parce que jusqu'à présent, ils faisaient surtout de l'achat et ils travaillaient beaucoup avec des partenaires. L'idée depuis quelques années, en tout cas depuis l'année dernière, c'est de créer leur propre technologie et de vendre cette technologie auprès de professionnels, donc d'entreprises ou des collectivités.
Ok. Mais du coup, c'est quoi comme type de vélo que vous faites?
Alors, c'est des vélos électriques. Pour faire simple, c'est des vélos qui peuvent s'apparenter à Vélov, en tout cas pour les Lyonnais qui connaissent Vélov. Donc Vélov, ils ont des vélos mécaniques. Aujourd'hui, ils font quelques vélos électriques. Nous, c'est 100% du vélo électrique à usage pour la ville. Donc, c'est des vélos électriques qui vont être quand même assez lourds, mais confortables. C'est des vélos électriques qui sont aussi relativement sécurisés, puisque comme on les vend aux collectivités, en fait, c'est des vélos électriques qui vont être en ce qu'on appelle en sharing, donc en partage. Donc, ils vont être utilisés par beaucoup d'utilisateurs. Certains sont parfois un peu font peu attention à l'entretien du vélo. Donc, il faut que ce soit des vélos qui soient vraiment très solides. Par contre, ils s'inscrivent dans le design de la ville. Donc, il faut qu'il y ait un certain design qui soit assez élégant et qui soit surtout très simple d'utilisation. Puisque, comme je l'ai dit, on va être utilisé par vraiment beaucoup de monde, plusieurs fois par jour. Voilà, donc il faut que ce soit robuste, mais assez design pour s'inscrire un peu dans la ville.
Ok, et c'est intéressant ce que tu disais sur l'utilisation que vous en avez prévue. Enfin, vous, votre business, c'est vraiment les collectivités et vraiment pour du vélo partagé?
Exactement. Alors bah, d'ailleurs, c'est dans le nom, on s'appelle B2 e-bike. En fait, il y a un peu un jeu de mots, c'est de la vente en B2B. Donc business to business, on vend à des entreprises ou alors à des collectivités. Donc en fait, ça peut être par exemple une entreprise qui va vouloir prendre soin entre guillemets de ses employés et leur offrir la possibilité de venir en vélo au travail avec des vélos mis à disposition par l'entreprise. Donc nous, on va vendre nos vélos à cette entreprise et on va surtout aussi leur vendre tout l'environnement qui va autour du vélo, c'est-à-dire une station de recharge de vélo, donc une station de sécurisation des vélos et de recharge de vélo, et une application qui va avec pour débloquer le vélo, pouvoir géolocaliser le vélo. On a aussi dans l'application pas mal de statistiques pour voir, par exemple, le CO2 qui a été pas consommé puisque la voiture n'a pas été prise. Voilà, donc il y a vraiment on vend tout l'environnement qui vient autour de l'utilisation du vélo. Donc ça, c'est valable pour les entreprises et aussi pour les collectivités. On a pas mal de petites villes qui nous appellent pour venir mettre une dizaine de stations de vélo dans leur ville. C'est valable aussi d'ailleurs pour des copropriétés. On vend aussi à des copropriétés. Donc quand il y a une construction d'immeuble, l'entreprise qui va construire l'immeuble peut proposer aux gens qui vont venir vivre dans l'immeuble d'avoir des vélos en partage seulement pour ces personnes-là. Donc là, ils vont avoir une application qui leur permet seulement à eux de pouvoir débloquer les vélos et de les utiliser au quotidien.
Ok, donc maintenant qu'on a posé un peu le cadre, est-ce que tu peux nous expliquer donc toi ce que tu fais concrètement dans l'entreprise, c'est quoi ton métier ?
Alors moi je suis ingénieur conception mécanique, donc mon métier ça va être vraiment concrètement tous les jours d'imaginer des solutions pour améliorer que ce soit les vélos ou nos stations. Par exemple, donc on a en fait notre système de sécurisation, c'est une boîte qu'on vient plugger au vélo qui sera toujours sur le vélo et une station, donc avec un système mâle femelle. En fait, le vélo c'est partie femelle et la station c'est partie mâle. Et donc tout dans le vélo, on a toute notre technologie de GPS, de sécurisation, de recharge, etc. Cette boîte qu'on appelle Secure Inbox, il va falloir qu'on l'adapte à beaucoup de vélos puisque on a plusieurs vélos, plusieurs types de vélos dans les flottes qu'on peut vendre. Maintenant, c'est des vélos qui sont souvent existants déjà, et pour pas avoir à refaire complètement des flottes, il va falloir que, donc moi dans mon travail, ça va être adapter cette Secure Inbox, donc cette boîte qui contient toute la technologie, à n'importe quel vélo. Pour ça, je vais dessiner des pièces en 3D. Sur des logiciels de CAO. Donc, moi j'utilise par exemple Onshape, qui est un logiciel en 3D en ligne. Tous ces logiciels-là sont évidemment payants. Et ensuite, donc je viens les dessiner, ensuite je viens les prototyper.
T'as quoi comme outil pour ça ?
J'ai par exemple une imprimante 3D, donc je viens, si c'est possible, parce que c'est pas toujours le cas, j'essaie de l'imprimer en 3D pour avoir une pièce. Et c'est surtout pour voir à quoi elle va ressembler, si elle s'intègre bien dans le vélo, s'il n'y a pas des choses auxquelles on n'a pas pensé, parce que souvent, le dessin en 3D, c'est vraiment très pratique, mais il y a pas mal de choses auxquelles on pense pas. Ensuite, je contacte un fournisseur, ou plusieurs fournisseurs, souvent c'est ça qui se passe, pour voir les prix qu'ils peuvent m'offrir sur la production d'une pièce.
Alors, entre les deux, est-ce que tu as une phase de validation déjà, du coup, pour l'intégration de ta pièce ?
Alors oui, effectivement, il y a pas mal d'allers-retours entre mon dessin et la pièce. Donc d'abord, même avant de dessiner la pièce, comme je vous dis, on est deux ingénieurs dans mon entreprise. Il y a un ingénieur qui a beaucoup plus d'expérience que moi et donc j'apprends beaucoup de choses grâce à ça. Donc en fait, moi, on me donne un cahier des charges. J'essaye d'imaginer une première pièce. Je reviens vers l'ingénieur qui est mon responsable. On valide ensemble une première version, mais simplement de dessin. Ensuite, je vais la dessiner en 3D. Souvent, sur cette 3D, il y a déjà des modifications parce que, par exemple, si je veux intégrer mon dessin sur une 3D existante, souvent, je me rends compte que, en fait, la pièce va pas passer à tel endroit ou alors elle va être trop large, trop... voilà. Il y a certaines contraintes qui vont pas être en cohérence avec le dessin existant. Donc à partir de là, je fais une deuxième version. Je reviens encore vers mon ingénieur pour valider avec lui. Si cette version est cohérente et qu'elle peut être validée pour l'instant, je vais l'imprimer en 3D. Une fois qu'elle est imprimée en 3D, j'essaye de la mettre sur mon vélo, de la placer. Donc là, c'est pas mal de bricolage en fait. On a la chance d'avoir un atelier dans notre entreprise. Je vais aller sur les vélos et je passe une journée à essayer de donc visser mon prototype, le remplacer, aller couper une partie, etc. Faire pas mal de modifications. Souvent, ça prend beaucoup de temps parce que c'est beaucoup d'aller-retour entre je vais placer ma pièce, ça va pas, donc je l'enlève, je viens lui faire une modification ou alors je réimprime une autre version en 3D. Imprimer quelque chose en 3D, ça prend toujours beaucoup de temps. Ça passe. Alors, ça dépend vraiment de la pièce, mais en moyenne, c'est une demi-journée pour les pièces que je produis moi. Une fois que la pièce est vraiment correcte pour moi, que l'ingénieur qui est mon responsable l'a validé et que que d'autres responsables dans l'entreprise ont validé. Là, je vais essayer de faire appel à plusieurs entreprises. On a des entreprises avec lesquelles on travaille en général. Donc, on va leur faire faire ce qu'on appelle un chiffrage. Donc, ils vont nous donner un prix pour cette pièce-là. Souvent, on a la chance de travailler avec des gens qui sont vraiment compétents. Donc, ils vont aussi nous proposer des modifications, que ce soit pour modifier... alors, ça peut être, par exemple, un traitement thermique sur la pièce. Si on utilise un certain matériau, ils vont nous proposer un certain traitement thermique pour qu'elle soit plus résistante, plus jolie, une autre peinture, etc. Ou alors une modification qui va simplifier la pièce et donc baisser les coûts. C'est dans notre intérêt, mais c'est aussi dans leur intérêt, parce que bah ça fidélise le client aussi. Une fois que j'ai plusieurs chiffrages faits par plusieurs entreprises, je vais en sélectionner un. Souvent, c'est le moins cher, mais ça peut aussi être par rapport à la proximité de notre entreprise en termes de géolocalisation. Si j'ai une entreprise qui va me produire une pièce moins chère, mais qu'au final, j'ai aussi le coût du transport, ça me revient plus cher. Une fois que... Donc là, on passe en phase de prototypage. L'entreprise va me fabriquer un prototype. Ça, c'est long et c'est la phase la plus chère de... Pour une pièce, c'est une phase qui est assez chère puisque quand on vient produire une pièce, alors nous on produit beaucoup de pièces en inox ou en aluminium, il faut faire un moule. Enfin, souvent c'est un moule, ou alors si c'est juste une tôle qui va être pliée et soudée par exemple, il faut donc expliquer au fabricant comment elle va être faite. Il y a souvent des gabarits de fabrication qui vont être faits pour la soudure. Donc tout ça, en fait, c'est des pièces à produire autour de ma pièce. Même pour une petite pièce, je vais avoir plein de pièces à produire qui vont avoir un certain coût. Donc par exemple, pour une petite pièce, je peux avoir un prototype qui vaut 500 €, et dans mon chiffrage, je vais demander le coût du prototype, le coût d'une série de 10, le coût d'une série de 500 par exemple, et le coût d'une série de 1000 en fonction de mes besoins. Et pour une pièce qui vaut par exemple 500 € en prototype, elle peut valoir simplement 50 € sur une série de 1000.
Ouais. C'est pas trop des pièces usinées quand tu dis il faut faire un moule, c'est des pièces qui sont fondues.
Ouais, pour l'instant, moi j'ai pas eu à faire de moule. Mais alors avant que j'arrive dans l'entreprise, il y a eu un moule qui a été fait parce que par exemple, on a des pièces en plastique. Pour une pièce en plastique, il faut toujours faire un moule. Enfin, pas toujours, mais c'est pour les pièces que nous on fabrique, il faut faire un moule. Notamment les pièces, par exemple, je vous ai parlé de la Securing Box, qui est la boîte dans laquelle il y a la technologie qui se trouve dans le vélo. Cette boîte-là, elle est faite c'est un casing, donc deux parties, et c'est du plastique. Et donc là, il faut faire un moule. Un moule, ça coûte très très cher. Et donc en fait, il faut pas se rater sur le moule, parce qu'une fois qu'il est fait, il faut le rentabiliser. Donc, il faut produire une quantité énorme de produits pour qu'elle soit enfin rentabilisée. Voilà. Donc, je reprends sur la partie prototype. Une fois que le prototype est validé, parce qu'on reçoit un premier prototype, souvent, j'ai des modifications à faire. Je vais faire un second prototype après les modifications. À partir de là, on commence à arriver sur une pièce qui est plus ou moins fiable. Et donc, une fois que c'est validé, là, je peux lancer la fabrication sur une série de... En fonction du nombre de pièces qu'on va avoir besoin. Quoi.
Ok. Et là, ton rôle s'arrête après.
Mon rôle s'arrête plus ou moins, puisque souvent la pièce ne vient pas toute seule. Elle vient avec une série de visseries pour pouvoir viser un panier, par exemple, sur un vélo. Il va falloir plusieurs vis. Nous, en plus, on utilise beaucoup de vis sécurisées, donc de vis inviolables, puisque c'est des vélos qui ont pour vocation de ne pas être destructibles ou pas être démontables par n'importe qui dans la rue. Donc, c'est des pièces qu'il faut commander. Donc il y a pas mal de choses, d'autres pièces à commander en fait après avoir commandé ma pièce que j'ai produite. Quoi.
Ok. Et histoire de se faire un petit ordre d'idée, la chaîne complète donc de la première ébauche jusqu'à l'arrivée de tes pièces produites en série, ça met combien de temps?
Alors, en général, pour ne pas dire de bêtises, parce que moi, je travaille dans une entreprise qui, aujourd'hui, on est une jeune entreprise, on a beaucoup de commandes, donc on a un emploi du temps qui est très, très serré. Il faudrait faire des journées de 40 heures si on voulait pouvoir tout faire. Donc là, pour donner un exemple, j'ai produit aujourd'hui enfin pas aujourd'hui, mais depuis que je suis arrivé, j'ai eu globalement deux gros projets à faire. Et un des projets, c'était par exemple la production d'un panier. Enfin, c'est un guidon avec le panier complet et le support pour tenir ma Securing Box, donc ma boîte dans laquelle il y a la technologie. Ça, c'est de la tôle pliée, du soudage, de la peinture. Enfin voilà, il y a beaucoup d'étapes à faire. J'ai commencé cette pièce, en fait, presque depuis que je suis arrivé, donc il y a 6 mois, et aujourd'hui. Le prototype a été validé, le deuxième prototype a été validé et la série arrive dans quelques semaines. Donc globalement, c'est au moins 6 mois en fait.
D'accord, ok, ouais, c'est quand même un travail de longue haleine quoi. Et en plus, toi, tu te définis comme ingénieur conception, mais j'ai l'impression que, enfin, t'es même un petit peu quand même aux achats, un petit peu à la production, à l'industrialisation, tout ça. T'as quand même plusieurs casquettes quoi.
Alors, effectivement, là, c'est aussi le fait que je travaille, c'est même surtout le fait que je travaille dans une petite entreprise. On n'est que 10, donc on n'a pas, comme dans certaines entreprises, quelqu'un qui va s'occuper 100% du temps des achats. Ça existe, le métier d'acheteur. Il y a aussi le métier de chef de projet. Moi, je suis sur des projets où on a tellement de projets à faire en même temps qu'en fait, je suis propre chef de mon projet. Donc, en fait, comme... En tant que chef de projet, tu te dois de respecter un calendrier que tu te fixes toi-même en accord avec les autres personnes qui sont autour. Effectivement, il y a de l'achat, il y a toute la partie prototypage et toute la partie recherche de fournisseurs aussi. Après, mon rôle s'arrête aussi là. Je vais pas aller au contact des clients. Par contre, je fais pas mal d'autres choses à côté de ça puisque je suis dans une petite entreprise. Faut aussi, il y a plein de choses à faire. Par exemple, une fois qu'on va envoyer des vélos dans une ville, on a tellement de vélos et on est tellement peu que il faut que moi j'aille mettre les mains dedans aussi et que j'aille emballer des vélos, par exemple, ou que j'aille faire un peu pas de la maintenance, mais que j'aille en tout cas finir de fabriquer les vélos, des choses comme ça. Donc, je passe beaucoup de temps. Derrière un bureau, derrière mon ordinateur, beaucoup de temps à l'atelier pour fabriquer mes prototypes, mais aussi beaucoup de temps dans d'autres endroits pour pouvoir emballer les vélos ou alors finir la fabrication quoi.
D'accord. Et justement là-dessus, est-ce que vous avez c'est encore une jeune entreprise comme tu l'as dit, mais des phases de test, de retour d'utilisation, parce que j'imagine qu'en conception c'est très important ça, même de toi, de tester, de voir les faiblesses des pièces, d'avoir des retours de la maintenance pour pouvoir améliorer le produit.
Oui, complètement. Effectivement, là, ça fait quelques années qu'ils sont là, que l'entreprise existe. Ça fait quelques années qu'on a nos produits qui sont sur le marché et nos produits qui sont dans les villes. Jusqu'à présent, on utilisait plusieurs stations, par exemple plusieurs types de stations qu'on ne produisait pas nous, en tout cas qu'on ne fabriquait pas nous. On a eu pas mal de retours d'expérience sur ces technologies là. Effectivement, c'est vraiment important d'avoir ce retour là. On a des personnes qui vont faire la maintenance sur les vélos, donc eux ils sont directement au contact des clients et ils peuvent avoir un retour sur ce qui va et ce qui va pas. Nous derrière, effectivement, il y a beaucoup et très souvent des corrections à faire sur ne serait-ce qu'une petite pièce pour que tout fonctionne bien mieux. Donc ça aussi, ça fait partie du travail et ça doit s'intercaler dans notre calendrier de j'ai une pièce à produire, oui, mais en même temps, il y a une correction à faire sur une pièce qui est en lien avec cette pièce-là. Donc, il y a tout un agencement de calendrier à faire. Maintenant, effectivement, pour mon propre cas et mon entreprise, le retour d'expérience qui va nous intéresser, c'est sur le lancement de notre technologie qu'on est en train de mettre sur le marché aujourd'hui, en fait. Depuis un an, depuis l'arrivée de l'ingénieur qui est mon responsable, on travaille sur la production d'une technologie et elle va arriver sur le marché d'ici peu. Et donc là, il y a beaucoup de travail de conception et de tests, en fait, aussi vite qu'on peut le faire, puisqu'il y a beaucoup de commandes, mais il y a beaucoup de tests à faire avant de lancer quelque chose sur le marché, en fait. On peut pas se permettre d'avoir, par exemple, l'application qui est autour des vélos qui marche pas. Ça, on peut pas se permettre de lancer le marché comme ça.
D'accord. Ouais. Ça marche. Et Toi, du coup, est-ce que tu... Parce que c'est quand même ton premier poste, enfin, t'as peu d'expérience. C'est quoi les aspects les plus difficiles quand tu débarques comme ça sur un poste aussi, aussi complet et avec des responsabilités quand même, mine de rien?
Je dirais que la première des difficultés, c'est essayer de comprendre le plus rapidement qu'est-ce que attendent les autres de toi. Parce que je suis arrivé, moi, comme je vous l'ai dit, dans une entreprise qui est petite, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et en même temps, je suis arrivé à un moment donné où on est dans une phase où il faut qu'on arrive à lancer notre produit au plus tôt. Donc il y a énormément de travail. Et il faut que je puisse comprendre qu'est-ce que par exemple mon ingénieur, mon responsable attend de moi au plus vite, essayer de comprendre quels sont les produits qu'on a déjà. Donc en fait il faut que j'aille même tester moi-même directement les produits qu'on a pour comprendre comment ça fonctionne, puisque je peux pas me permettre de produire quelque chose qui soit pas complètement compatible avec ce qu'on a actuellement. Donc voilà, c'est beaucoup de travail dans l'entreprise, en fait, de même communiquer avec les autres, essayer de voir, vous me demandez de produire ça, mais ça pourquoi on doit produire ça, ça s'inscrit dans quel système, dans quel marché, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'interconnexions entre chaque travaux que j'ai à faire, que ce soit, enfin, tous les jours, en fait.
Au niveau de tes motivations pour aller vers cette entreprise-là, vers ce métier-là, est-ce que toi, tu avais déjà une idée précise de ce que tu voulais, de quel type d'entreprise tu voulais intégrer avant, ou tu t'es retrouvé là par hasard? Comment ça s'est passé? C'était quoi ta démarche?
Alors, à l'INSA, en tout cas en GM, en quatrième année, on a notre stage. J'ai commencé à m'intéresser à ce que je voulais faire vraiment au moment de la recherche de stage. Je m'y suis pris très très tôt parce que je savais que je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai cherché pendant très longtemps. Il me semble que j'ai commencé à postuler 6 mois avant mon stage à des postes pour un stage. Donc ce qui n'est pas vraiment non plus le début de ma carrière, quoi. C'est vraiment juste pour un stage. À ce moment-là, je me suis donc demandé ce que je voulais faire et je me suis dit qu'il y avait deux choses que j'aimerais faire, deux choses connectées, c'est que ce soit que je travaille pour quelque chose que je sente utile, réellement utile, qui a un réel impact, que ce soit sur l'environnement ou sur la vie quotidienne des gens, et quelque chose qui me plaise et dans lequel je puisse avoir quand même un contact manuel avec le produit. J'étais pas du tout attaché au vélo au début. Je faisais pas du vélo en compétition ou quoi. J'utilisais juste mon vélo pour les déplacements quotidiens. Mais je me suis dit que c'était quand même un domaine dans lequel je pouvais concilier ces deux choses-là. Donc, j'estime que le vélo, ça, en tout cas, le monde du vélo et l'utilisation du vélo, c'est quelque chose qui est de nos jours utile. Aller au vélo en travail plutôt qu'aller en voiture au travail quand on le peut, il me semble que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on peut se questionner là-dessus, mais c'est quelque chose qui, en tout cas à mon sens, est utile. J'ai vu des statistiques il n'y a pas longtemps qui disaient que il y a environ 50% des gens qui vont au travail en voiture pour des trajets de moins de 1 km. Donc voilà, moi j'ai estimé que ça c'était... On pouvait... En tout cas, avec les connaissances et ce qu'on savait faire, essayer de changer ces choses-là. Donc là, c'est vraiment du côté écologique, environnement. Et en plus, le vélo, c'est quelque chose qui existe depuis quand même un certain temps, mais c'est quelque chose qui reste en constante évolution en termes technologiques. Il y a énormément d'évolutions sur les vélos, que ce soit sur les transmissions, sur le confort, et même sur l'utilisation en général. On sait faire des vélos, mais il y a quand même, je trouve, un manque de personnes qui en font, malgré le fait qu'on puisse trouver un vélo pour 100 €. Moi, j'utilise un vélo au quotidien, il vaut une misère, mais je l'utilise vraiment tous les jours. C'est mon mode de déplacement favori, et j'utilise vraiment 2 fois par jour pour n'importe quel trajet. Et en tout cas, en ville, ça a une réelle utilité, quoi.
Ouais. Et là-dessus, est-ce que vous avez une réflexion, ou toi, personnellement, tu as une réflexion sur le vélo? Peut-être il y a un problème d'exposition aux intempéries, de sécurité aussi, qui peut refroidir les gens. Et peut-être que, je sais pas, un vélo avec une petite cabine, peut-être que ce serait plus lourd, mais avec une assistance électrique, enfin, des trucs comme ça. Est-ce que c'est une réflexion qui existe?
Complètement, ouais. C'est vraiment dans l'air du temps. Je me suis intéressé au moment de ma recherche d'emploi. Après mon stage, en fait, déjà j'ai fait mon stage dans une entreprise qui est à Villeurbanne et qui s'appelle Yokler, qui fait des vélos cargo, donc pour le transport de marchandises, pour ce qu'ils appellent la livraison du dernier kilomètre. Donc une fois que les camions arrivent proche des villes, il faut dispatcher les colis. Et donc là, le vélo cargo, c'est là où il se rend vraiment utile et intéressant. Donc là, on rentre dans le domaine du vélo pour l'utilisation quotidienne et pour l'utilisation logistique. Par rapport à ta question, oui, effectivement, donc c'est complètement dans l'air du temps ce débat de l'utilisation du vélo plus que le vélo en lui-même. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est même en train de se monter qui s'appelle l'extrême défi. C'est donc en fait ça s'appelle une co-pétition, donc c'est une compétition mais coopérative qui est portée par l'ADEME. Et en fait, il y a plusieurs équipes qui se sont créées pour essayer de développer des vélos qui s'appellent, enfin, c'est pas vraiment des vélos, c'est des véhicules intermédiaires, donc c'est entre le vélo et la voiture, pour avoir les avantages du vélo, donc que ce soit donc avoir un pédalier pour quand même faire un peu de sport, une accessibilité quand même qui est beaucoup plus importante que la voiture. On n'a pas besoin d'un truc énorme pour un petit déplacement, et en même temps avoir le confort de la voiture, c'est-à-dire effectivement, comme tu l'as dit, avoir un toit, il y a une assistance électrique, des phares pour être plus visible, parce qu'il y a aussi ce côté-là, côté sécurisation en ville. Je l'expérimente tous les jours parce que c'est toujours un danger. Enfin, malheureusement, on dit que c'est dangereux de faire du vélo en ville. Moi, je le prends souvent dans l'autre sens en disant qu'en fait, c'est pas le vélo qui est dangereux, c'est la voiture. Si on avait que des vélos, il y aurait. Voilà, c'est toujours complexe, mais. Donc, voilà, il existe aujourd'hui pas mal de débats et d'évolutions autour de ce genre de véhicule. Je pense qu'on n'est pas loin d'en voir arriver dans nos villes. Maintenant, voilà, c'est toujours la même chose. Qui va acheter ce genre de véhicule quand on voit que. Malheureusement, au niveau des prix, on va arriver sur des prix qui sont presque les mêmes qu'une voiture. Donc, entre acheter une voiture et acheter un vélo comme ça, voilà. Mais je pense qu'il y a le travail d'un ingénieur. En fait, je pense que c'est la place pour en parler, ce genre de podcast. Le travail d'un ingénieur aujourd'hui, c'est effectivement mettre ses connaissances au profit de quelque chose qui, voilà, profit du développement d'une technologie, mais c'est aussi essayer de développer des choses qui ont un réel sens aujourd'hui et qui soient réellement utiles et qui s'inscrivent dans une démarche de qu'est-ce qu'on a réellement besoin aujourd'hui et pourquoi on le fait et comment on le fait. Et je pense que ce genre de véhicule là c'est totalement dans l'air du temps, et je pense que moi j'aimerais bien travailler peut-être un jour dans l'étude de ce genre de véhicule, ou alors pas forcément ce genre de véhicule, mais quelque chose qui s'inscrive dans une démarche d'utilité collective, quoi.
Ok. Et tu utilises le terme ce genre de véhicule, mais comment ça s'appelle en fait ?
Aujourd'hui, on les appelle les véhicules intermédiaires.
D'accord.
Intermédiaires par rapport à leur place entre le vélo et la voiture. Maintenant, pour en revenir à ça, je pense que déjà, si on arrivait à développer les vélos et si on arrivait à développer l'utilisation des vélos, que ce soit par la création de vélos, la création de vélos partagés comme je le fais moi, ou même la création d'environnements pour le vélo, comme par exemple des voies destinées simplement au vélo. Aujourd'hui, dans les villes, on a des pistes cyclables, ce qui est très bien, mais qui est largement pas suffisant et qui participe à l'inconfort des gens quand ils font du vélo, et qui participe malheureusement à ne pas donner envie aux gens de faire du vélo. Donc il y a même aujourd'hui la création dans Lyon de pistes réellement dédiées au vélo, Et bah, typiquement, moi, quand je prends le vélo pour aller au travail, je vois quand même beaucoup plus de monde qui prennent ces pistes-là et ça donne envie aux gens de faire du vélo. Et c'est réellement plus agréable d'aller au travail en vélo, même pour des grandes distances. Voilà, et en plus, j'ai lu une étude qui disait que faire 20 minutes de sport avant d'aller au travail, c'était source de développement de la créativité pour toute la suite de la journée. Donc voilà, c'est un petit bonus. Ouais.
Au niveau de... Donc, t'as dit que t'as passé beaucoup de temps sur la recherche de ton stage et c'était quelque chose qui était important pour toi. Et quel moyen t'as utilisé? Enfin, est-ce que tu peux donner des conseils, en fait, pour... je sais pas s'il y a des élèves qui nous écoutent et qui cherchent un stage. C'est quoi tes conseils pour trouver le stage de tes rêves?
Alors, le stage de ses rêves, je sais pas si ça... Enfin, si, ça doit certainement exister. Maintenant, je pense que c'est compliqué de le trouver. Faire un stage, c'est toujours super intéressant parce que justement, ça permet de savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Donc, en fait, je pense pas qu'il faille s'intéresser à trouver le stage de ses rêves, mais plutôt s'intéresser à trouver un domaine dans lequel on pourrait s'épanouir. Ou alors, essayer de trouver un domaine qu'on ne connaît pas mais qui pourrait nous intéresser. Moi c'était un peu mon cas en fait, le domaine du vélo je connaissais pas du tout. Donc j'ai un peu une fois que j'ai compris que le domaine du vélo pouvait m'intéresser, même si j'avais pas la certitude de ça, j'ai cherché toutes les entreprises qui tournaient autour du vélo dans Lyon. Je suis allé en voir peut-être une bonne dizaine. Je pense que c'est un super moyen d'aller se déplacer. Alors c'est facile quand on cherche dans la ville dans laquelle on est. Moi c'était le cas, je cherchais à trouver un stage dans Villeurbanne ou dans Lyon. Voilà, aller se déplacer dans l'entreprise, aller parler avec les gens. Déjà c'est une première approche qui est positive pour l'entreprise parce qu'elle voit qu'on fait l'effort et elle est positive aussi pour nous puisque ça peut être un déclic de se dire « Ah non, là, pas du tout, j'ai vraiment pas envie de travailler ici. » Ou alors, au contraire, se dire « Ah tiens, c'est intéressant, j'ai pu parler avec des gens qui m'ont intéressé. Et... »
Ouais, ouais, ouais. Tu sens tout de suite l'atmosphère de l'endroit, des gens.
Ouais. Complètement, ouais. C'est vraiment, ça joue. Essayer de même juste voir si on peut s'entendre avec son manager, ça fait vraiment la différence quand on commence à travailler... Et mine de rien, un stage de 6 mois, ça reste quand même assez long. Donc, je pense que c'est intéressant de pas chercher son stage un peu au hasard et de se dire, bon, il me reste 1 mois, dans 2 semaines, je vais commencer à chercher mon stage et puis on verra bien. Et puis, de toute façon, je trouverai dans tous les cas parce qu'on a... Enfin, voilà, c'est vrai qu'on a la chance à l'INSA d'avoir ce nom, entre guillemets, sur notre CV de INSA de Lyon qui donne envie un peu à pas mal d'entreprises, pas toutes, mais à pas mal. Et voilà, donc c'est vrai que c'est facile, entre guillemets facile, pas toujours le cas, mais facile de trouver un stage ou un job un petit peu moins, mais faut quand même pas tomber dans la facilité. Je pense que il faut s'intégrer dans la démarche de qu'est-ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire et est-ce que ça va vraiment me plaire à court terme ou à long terme en fait.
Ouais. Et une fois que tu as trouvé ton stage ou ton job, parce que je pense que c'est quand même assez similaire, est-ce que, pareil, tu as des conseils pour transformer l'essai, pour réussir la transition, parce que c'est quand même très, très différent de l'école. C'est quoi le secret pour être bien en entreprise, pour trouver ce que les autres attendent de toi, pour faire ce qu'il faut faire et pour pas faire de la merde, justement?
Je sais pas si je l'ai trouvé, ce secret-là. Moi je sais que j'aime beaucoup aller parler avec là on est 10 dans l'entreprise donc c'est assez facile d'aller parler avec tout le monde, mais il y a vraiment des profils dans mon entreprise qui sont très différents. Tout le monde a travaillé dans des domaines complètement différents. J'ai quelqu'un qui a fait des études d'architecte qui se retrouve à travailler dans le domaine du vélo. J'ai quelqu'un qui est technicien cycle aujourd'hui alors qu'il travaillait dans des garages automobiles. Tout le monde a des expériences vraiment hyper intéressantes et hyper enrichissantes. Donc déjà, essayer d'aller parler avec tout le monde, de s'intégrer dans l'entreprise. Mais s'intégrer, c'est vraiment à soi de faire le premier pas et vraiment avoir l'attitude de j'ai envie de m'intéresser à tout le monde, que ce soit s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait réellement dans l'entreprise ou même qu'est-ce que font chaque personne le week-end dans l'entreprise, parce que enfin pouvoir parler avec les gens et être et voilà avoir du contact avec les gens, c'est super important. Et le deuxième conseil, c'est effectivement essayer de dès le début de savoir qu'est-ce que fait l'entreprise. Moi, je pense que je l'ai fait un peu tard dans le sens où qui sont nos clients, vraiment qu'est-ce que fait chaque personne dans l'entreprise, à quoi elle sert, et du coup ça donne une idée de à quoi je sers moi dans l'entreprise, pourquoi je suis là, et du coup ne pas se tromper dans les missions pour pas être complètement à côté de la plaque, quoi.
Ok. Eh ben merci pour ces bons conseils. Et puis Étienne, c'est tout pour mes questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un sujet que j'ai oublié d'aborder avant la fin de l'interview?
Je crois pas, non, juste essayer de faire un peu plus de vélo, vous verrez que ça aide tous les jours.
Et voilà, cet épisode est terminé. Merci encore à toi, Étienne, pour nous avoir partagé ton expérience. Si les sujets de la mobilité vous intéressent, je vous invite à écouter l'épisode 19 avec Valentin Lungenstrasse, dans lequel nous parlions notamment de la politique de la mobilité à Lyon. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes en cherchant Ingénieur Avenir ou INSA dans votre application de podcast préférée. Ingénieur Avenir est disponible sur Podcast Addict, Apple Podcasts, Spotify et toutes les autres applications de podcast. Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernet-Minier avec l'aide d'Amélie Berthe. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni INSA Lyon, entité junior d'Alumni INSA Lyon, avec la chaire Ingénieur INSA, philosophe en action.